Merci Daniel pour cette intro. Je vous souhaite d'abord le bonjour, la bienvenue. Je vous suis heureux de vous retrouver et je vous souhaite une année bénie parce qu'on ne s'est pas encore vu. On est le 15 et oui, le temps passe vite et l'année passée est déjà passée. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Qui a lu la Bible complètement? Je ne répondais pas, je sais bien. Je suppose. Qui a lu l'Ancien Testament convenablement? Qui a lu les chroniques et les étudiés? On avait dit qu'on allait lire dans les chroniques. Chapitre 1 des chroniques. Je n'allais pas chercher, je vais vous le dire. Adam, Seth, Enoch, Canaan, Maël, Gérac, Enoch, Métuchélah, Lémèque, Noé, Sem, Cam, Japhet, fils de Japhet. 5 versets déjà. On continue, 34. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Esaü, Israël, fils d'Esaü, Eliphaz, Réuel, etc. Verset 42, fils d'Esther, Bilal, etc. On est chapitre 1. Chapitre 9. C'est comme ça jusqu'au chapitre 9. Fils de Miché, Python, Mélec, Traché, Akar, engendra Zéra, etc. 9 chapitres où il n'y a que des noms. Comment est-ce que vous voulez prêcher là-dessus, sérieusement? À part prêcher sur la généalogie. Mais il est évident que c'est lourd parfois à lire. Et quand on commence, si on dit un jeune chrétien commence par les chroniques, il lit plus la Bible. Hein. Il abandonne. Hein. Mais au milieu de ça, parfois, une petite perle. Chapitre 4, versets 9 et 10. 1 Chronique 4, versets 9 et 10. Deux versets. Jabez était le plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jabez invoqua le nom du Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. » Deux versets. Seigneur, encore une fois, nous voulons nous mettre devant toi et te demander vraiment de nous éclairer. Si tu as permis que ces deux versets soient perdus dans ces généalogies, c'est parce qu'ils ont quelque chose à nous dire. Encore une fois, Seigneur, mets ta main sur nous et montre-nous ton message. Mais qu'à toi, encore une fois, revienne toute la gloire. Amen. Généalogie interminable, on trouve ces deux petits versets, la plus courte des biographies de la Bible. Un nommé Jabez, que l'on ne trouve nulle part. On n'en parle nulle part ailleurs. Et toute sa vie s'est résumée dans ces deux versets. Le premier, sa naissance, sa famille, sa réussite. Et le deuxième, sa vie de prière et ses résultats. C'est tout. Mais si on examine un petit peu plus près cet homme hors du commun, puisque quand même l'auteur des chroniques se sentit obligé de lui donner un petit peu plus d'importance, au lieu de citer juste son nom, on examine quand même tout. On examinera aussi sa prière qui pourrait être 4 étapes de la vie. Et je m'arrêterai aussi sur les 3 petits points. C'est pas dans toutes les Bibles, mais il y a une pause à la fin. Et Dieu accorda ce qu'il lui avait demandé. Et commençons par le commencement, sa naissance et son nom, Jabez. La seule référence qu'on a, c'est une ville. Dans 1 Chronique 2, 55, on parle de certains scribes qui habitaient à Jabez. C'est tout. Son nom, aussi le nom d'une ville. On n'a rien d'autre. Dans toute la Bible, on n'en parle pas. Par contre, c'est quand même sa maman qui nous donne son nom. Et sa signification. Verset 9 que nous avons lu, sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « C'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. » C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Et une autre version dit « C'est parce que je l'ai mis au monde dans la peine. » En hébreu, Jabez signifie peine, souffrance, douleur. Daniel nous a parlé du bonheur, mais désolé, je vais vous parler du malheur. La traduction, une traduction littérale pourrait être « il cause ou causera de la souffrance ». Lourd à porter. Vous savez bien quand même que selon la tradition juive, le nom de l'enfant lui est donné 8 jours après sa naissance, lors de sa circoncision, et il est parfois lié à un événement proche. Jacob signifie le trompeur, hein, comme on l'a déjà vu, l'usurpateur, on se souvient de sa naissance, qui va usurper son identité. Et bien d'autres exemples aussi, bon, j'en avais mis plein, mais bon. Moïse, sauvé des eaux, par exemple, ou Jésus signifiant Dieu sauve. Yabetz, lui, peine. Son nom lui tombe comme une marque au fer rouge, souffrance. J'imagine à l'école, ouais, douleur, viens au tableau. Souffrance, tu joues avec moi. Sérieusement, allez. Yabetz a quand même un lourd nom à porter. De plus, chaque fois que sa mère l'appelle, elle se souvient de sa souffrance. La souffrance qu'elle a dû encaisser, le souvenir de ce terrible jour qui devait être un jour de joie, jour de naissance, jour de joie. Non, Yabetz, douleur. Pourtant, c'est quand même que normal que la maman accouche dans la souffrance. C'est les conséquences d'Adam et Ève. Dieu dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. » Genèse 3,16. Pas de souci. Nous retrouvons la même phrase, « Enfanté avec douleur » ou « Mis au monde avec peine ». Douleur. Et pour l'auteur des chroniques qui nous donne ce détail, il a quand même fallu que l'accouchement fasse du bruit. Eh bien, des ragots. Enfin, si Yabetz avait voulu être discret, c'était foutu. Il a quand même une tartine dans toutes les chroniques. Mais rien n'y fait. Bon, Yabetz n'est pas passé inaperçu. En effet, le texte nous dit, en commençant, Yabetz était plus considéré que ses frères. Ah, il était mieux que les autres, apparemment. Yabetz a peut-être été un brave homme pour son temps, parce que, malgré sa mauvaise entrée dans le monde, il fut plus considéré que ses frères. Yabetz a marqué son temps, sa généalogie, si j'ose dire, et il nous marque encore aujourd'hui, vu qu'on en parle. Il a été aussi considéré par Dieu, car la fin de notre texte dit « Dieu accorda ce qu'il lui avait demandé ». Mais qu'est-ce qu'il a demandé? Ça, c'est le deuxième verset. 4 points. En premier, il demande d'être béni. « Bénis-moi ». On pourrait dire que c'est la prière tout à fait égoïste. « Seigneur, bénis-moi tout seul ». On dirait la prière d'un enfant avant de manger. « Merci Seigneur pour cette nourriture et bénis-moi ». Moi tout seul, occupe pas des autres. C'est la demande d'un enfant devant ses parents, c'est la foi de l'enfant, ce qui attend d'eux comme une évidence de protection, de bonheur, de paix, de reconnaissance, malgré la douleur de la naissance, malgré le poids de son passé, chaque fois rappelé par son nom, je vous le signale. Dieu veut bénir, c'est évident dans la Bible. On demande, mais Dieu veut bénir. Jérémie 19, on connaît, hein. « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Dieu est un papa. Il bénit, mais il aime bien que ses enfants lui demandent. C'est clair, dans Jean 16, 24, Jésus dira « Demandez et vous recevrez ». Matthieu 7, 7, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Dieu aime qu'on lui demande. Il faut oser demander d'être béni. Dieu répond toujours. Et même matériellement, même qu'on ne s'y attend pas. Henri nous a témoigné comment il a trouvé son appartement. Et la semaine dernière, on cherchait depuis un petit temps une maison de retraite pour ma maman et. Ben, mon frère a été, c'est dire par hasard, en voir une le lundi, et une chambre venait juste de se libérer, quoi. Par hasard. Par hasard avec la prière derrière, par hasard avec Dieu qui guide les prières, et vos prières. Mettons Dieu chaque jour dans notre vie. Il ne demande que ça, bénir. Mais il faut lui demander. Il attend. Et on raconte l'histoire, peut-être que je vous avais déjà entendu, de monsieur un tel qui arrive au ciel et qui est accompagné par un ange qui lui fait visiter les lieux. Et au détour du chemin, il voit un énorme hangar. Il demande, on peut visiter? Oui, oui, pas de souci, tu peux visiter. On va y aller. Et l'ange ouvre la porte, et puis il y a des énormes étagères, plein d'étagères comme ça, et il remarque que sur les étagères, il y a plein de boîtes comme ça, et tout est classé par ordre alphabétique. Alors, il cherche U à tel, il trouve son nom. Il voit une boîte, il y a plein de bazar dedans. Il dit, c'est quoi ça? Et l'ange lui dit, c'est toutes les bénédictions qu'on n'a pas demandées. Elles sont en stock. Dieu n'a pas donné. On n'a pas demandé. Demandez et vous recevez. C'est dans la nature de Dieu de bénir. Et dans Deutéronome, il nous a dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre, j'ai mis devant toi. La vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Être béni, demander. Et on se souviendra qu'au guet de Jabok, Jacob, le trompeur, a lutté avec Dieu. Et il a dit une phrase, « Je ne te lâcherai pas avant que tu ne m'aies béni. Je ne te lâcherai pas. Demandez et vous recevrez. » Jacob a eu son nom changé en Israël parce qu'il a lutté avec Dieu. Et il a gagné, il a eu sa bénédiction. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de demander des bénédictions à Dieu, tel un enfant. Demandez une année bénie. Je veux une année bénie, Seigneur. Deuxièmement, Yabetz demande d'étendre ses limites. La version Nouvelle Bible Seconde dit « En agrandissant mon territoire ». Prière tout autant égocentrique que la première. Hein? Prière de l'adolescent qui cherche à élargir ses horizons, à se libérer de certaines limites astreignantes. On est là, on veut plus, il nous en faut plus. Il faut aussi parler de ce côté enthousiaste de l'ado, prêt à changer le monde. Vous savez, on est enfant, puis on est ado. Ado, on connaît tout, on sait tout. Et si on prend l'exemple biblique, David était un ado pour affronter Goliath. Je ne sais pas si maintenant, quand on y réfléchit bien, en tant qu'adulte, je ne sais pas si j'aurais été. Hein. Un ado, allez, il y va, quoi. Il fallait oser provoquer le Philistin. Et le texte original parle bien, dans notre texte avec Yabetz, parle bien d'étendre son territoire, territoire matériel. Nous sommes quand même en Israël et chaque tribu a reçu un territoire bien délimité. Et de plus, Yabetz, selon la généalogie, je vous donne un petit détail, descendant de Juda, il sait que dans les dernières paroles de Jacob, il est dit que les descendants de Juda seraient forts comme des lions et qu'ils remporteraient des combats. Mais les territoires ont déjà été attribués. Tout le monde a déjà son petit lopin. Alors, quelle limite est-ce qu'il demande à Dieu? Quelle limite peut-il encore étendre? Quel combat veut-il que nous menions encore? Ou du moins pour lui aussi. Aujourd'hui, les limites de la connaissance, de la technique, de la science sont poussées très loin. Alors, qu'est-ce que je peux encore demander d'élargir pour moi? Et j'ai juste un témoignage qui n'est pas d'aujourd'hui, qui date un peu, mais de Christine Jeannin. Ça a été la première Française à arriver sur le sommet de l'Everest. J'ai toujours dit que moi, quand je vais mourir, il fallait me mettre là-bas. Comme ça, je serai plus près du Seigneur quand il reviendra. C'est une petite parenthèse. Et voici le témoignage de Christine Jeannin. J'avais quelque chose de moi à aller chercher à l'Everest, dit-elle. Et par ailleurs, je suis allé exprimer une souffrance qui m'habitait, une souffrance d'enfance. Le 5 octobre 1990, à 16h45, j'ai réalisé mon rêve, touché une espèce d'absolu. Mais dit-elle encore, en prenant du recul après ses exploits, j'ai marché pendant 15 ans sans me poser de questions. J'avançais, j'enchaînais les expéditions sans objectif précis. C'est après un long travail sur moi-même que j'ai compris que mes exploits ne me nourrissaient pas. Elle avait été sur l'Everest, ça ne la comblait pas. Alors comment est-ce qu'on peut errer comme ça avec de tels exploits et se dire « bon, ça ne me va pas ». Et elle continue son témoignage. « En me posant tous ces défis, j'avais soigneusement évité de me poser des questions. Il m'a fallu avoir le courage de poser les vraies questions, mais aussi avoir celui des larmes. » J'ai compris que le fait de seulement grimper était stérile et qu'il fallait aller chercher mon désir profond. Je devais trouver le courage de lâcher prise. Or, en montagne, symboliquement, lâcher prise, c'est tomber dans le vide. je sentais l'urgence du changement. » Fin de citation. Et après avoir traversé la banquise à pied, dans son historique, Christine Janin accompagne des enfants atteints du cancer dans des exploits d'ordre symbolique pour les encourager à combattre cette terrible maladie. Elle n'a pas fait qu'un exploit de monter sur l'Everest. Maintenant, depuis un titan, elle accompagne les enfants au cancéreux sur ce genre d'exploit. Faire découvrir aux jeunes malades une aventure à vivre, sa vocation d'alpiniste est maintenant habitée par un don d'elle-même et la joie de faire découvrir son univers. Elle n'a pas fait que pour elle. Elle a étendu son horizon. Je pense qu'en tant que chrétien, il reste encore des domaines où on peut œuvrer. Oui, les visites, les malades, les enfants, les jeunes, la prière. Et on cherche parfois encore aussi des pasteurs. Oui. Il n'y a pas de souci. Abraham était âgé, mais il a quand même eu un fils. On cherche encore des prédicateurs. Alors demandons au Seigneur d'élargir nos horizons. Et si j'ai trouvé ça dans un petit bouquin, souvent le calcul qu'on fait avec Dieu, c'est mes compétences, moi, mon expérience, ma formation, ma personnalité, mon passé, les attentes des autres, égale le territoire que Dieu veut me donner. Ça, c'est comme ça, nous, on calcule. Nous, on fait pour l'extension de Dieu. Dieu pense autrement. Ta faiblesse, ma faiblesse, ma petite foi, ta petite foi, sa volonté, sa puissance égale l'expansion de ton territoire uniquement pour sa gloire et pour l'agrandissement de son royaume. Avec Dieu, on fera des exploits. Le prophète Zacharie dira, ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Par l'Esprit du Seigneur. On a beau faire l'évangélisation, donner des traités de feu. Si l'Esprit du Seigneur, il ne bouge pas, il n'y a rien qui se fera. On ne peut pas dire comment Dieu va agir avec nous, ni les résultats que cela va entraîner, mais soyons sûrs que si nous nous demandons, il va repousser les limites de notre territoire. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Poussera les murs. Je suis convaincu. Troisièmement, Yabetz demande que la main de Dieu soit sur lui. Après la prière de l'enfant et de l'adolescent, plein de feu, auquel Dieu accorde la vision de l'expansion de son royaume, le voilà priant comme un adulte, conscient de ses limites, humaines, réclamant la main de Dieu sur lui, tel un Pierre marchant sur l'eau, qui s'enfonce. Il attrape la main de Dieu. La main de Dieu, la main peut toucher, prendre, travailler, écrire, caresser. L'expression « la main de l'Éternel » ou « la main de Dieu », ça se retrouve très souvent dans la parole de Dieu. Elle est là. Mais qu'est-ce qu'il peut faire, lui, avec sa main? Il peut guider, porter, consoler, rassurer, retenir, protéger, discipliné, et oui, etc. Elle est liée de toute façon à sa puissance. Et dans Josué 4, 23, voilà ce qu'on lit. « Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. » C'est la main de Dieu qui façonnera l'homme, qui le tirera de la poussière, celle qui s'appesantira sur l'Égypte pour libérer son peuple. C'est aussi elle qui combattra l'ennemi d'Israël. C'est elle qui jugera les nations. C'est la main de l'Éternel qui fut avec Élie, Élisée, Esdras et bien d'autres. Dans l'Ecclésiaste, il est écrit « J'ai vu que les justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de l'Éternel. » Être dans la main de l'Éternel. Et dans les Actes, on trouve « La main du Seigneur était sur eux, sur les apôtres, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. » Il faut la bénédiction et la main de l'Éternel. Dieu bénit, élargit leurs horizons, mais mieux vaut, vous vous souvenez des mieux vaut être dans sa main, car elle n'est pas trop courte pour sauver. Pour avoir demandé un plus grand territoire, Yabès demande que Dieu lui-même vienne et prenne le contrôle. Il est conscient que tout comme Salomon, que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, bâtissent en vain. On a beau être plein de bonne volonté, plein d'ardeur pour l'œuvre de Dieu, pour son royaume, pour son Église même, si nous ne demandons pas sa main puissante, tôt ou tard, on sera désemparés. Ayons l'humilité de reconnaître notre petitesse devant la moisson à laquelle nous espérons. Car Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quatrièmement, Jabez demande d'être préservé du malheur en sorte de ne pas être dans la souffrance. Après une croissance spirituelle passant de l'enfance, l'adolescence à l'adulte, le voilà qui, on a l'impression qu'il fait un pas en arrière. Oh là là, je suis arrivé, on est là, Seigneur, je suis dans l'œuvre de Dieu, j'ai grandi spirituellement, mais j'ai peur. J'ai peur de revenir au point de départ. J'ai peur de perdre mon premier amour. Oh, je sais que Dieu bénit, qu'il ouvre les yeux de mon cœur, qu'il est avec moi, mais si la souffrance revient, et si je peux tomber. J'ai commencé par définir le nom de Jabez comme peine, douleur, souffrance. En quelque sorte, il demande de ne plus avoir cette vie de Jabez, cette vie de souffrance. Il ne veut plus être comme avant. Il demande à Dieu qu'à défaut de changer son nom, il le préserve de s'en souvenir. Il sait que les ennemis qui l'entourent sont puissants. Cette requête nous montre le chemin qu'il a parcouru dans sa lucidité vers la maturité de l'homme fait. C'est la prière de l'âge mûr. Il reconnaît ses limites humaines et dans l'humilité demande à son papa de l'entourer de ses bras d'amour. Nous pourrons croire que nous contrôlons tout, que comme nous sommes enfants de Dieu, rien ne peut nous échapper, qu'il nous doit tout, que c'est normal, de toute façon qu'il nous protège, que toutes les épreuves passeront à côté de nous. Comme on est chrétien, la vie est un long fleuve tranquille. C'est sans compter que l'ennemi de nos âmes est là à côté de nous. Il veut nous manger comme un lion rugissant qui cherche sa proie. Sans compter non plus sur mon moi. C'est Luther qui disait « Je pensais que le vieil homme avait été noyé à mon baptême, mais il savait nager. » Le vieil homme remonte à la surface. Jésus dira que celui qui est debout ne prenne garde de tomber. Alors soyons suffisamment humbles que pour reconnaître notre faiblesse. Car sans Dieu, on ne peut rien faire. Mais avec Dieu, cette faiblesse peut être une force. Soyons suffisamment humbles que pour reconnaître notre besoin de cette protection divine. On n'est pas des surhommes, on n'est pas des superman, on n'est pas des super chrétiens non plus. Alors on a besoin de Dieu. Quand les disciples demandèrent à Jésus de leur apprendre à prier, voilà ce qu'il a répondu. Et ça, vous connaissez aussi. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous fais pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. C'est la prière du disciple arrivé. Arrivé à maturité spirituelle. Dieu à la première place. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Dieu à la première place. Deuxièmement, il demande la bénédiction, est aussi matérielle que spirituelle. Le pain nourrit l'homme et le pain de vie nourrit l'âme. Et puis, les horizons sont déjà ouverts. Comme tu m'as appris à pardonner aux autres, pardonne-moi aussi. Ô Père, je sais que ta main sur moi, j'aspire, que ton règne vienne et que ta volonté couvre la terre. Et cinquièmement, je reconnais mes faiblesses et dans l'humilité, tout comme Jabez, je demande de me préserver de la tentation, de me délivrer de celui qui peut me faire revenir en arrière. Garde-nous, Seigneur. Et spirituellement, on pourrait se poser la question, où nous situons-nous? Où est-ce que je me situe? Est-ce que je suis à l'enfance, Seigneur, bénis-moi tout seul. À l'adolescence, étends mes horizons. À l'âge mûr, que ta main soit avec moi. L'âge adulte, protège-moi, je ne veux plus faire de la peine, je ne veux pas revenir en arrière. Au disciple accompli, qu'à Dieu soit la gloire. Prends ma vie, elle est toute à toi. Si vous avez remarqué, et je vais terminer par là, Yahweh a ponctué sa prière d'un « si ». « Si tu me bénis. Si tu es avec moi. Si je ne suis plus dans la souffrance. Si. » En hébreu, le « si » a une grande importance, il est un peu, comme on dirait, puissant. Il ouvre déjà une porte de la foi. Dieu d'Israël, je m'adresse à toi parce que je sais que tu es la bonne personne. En français, on a l'impression qu'il met ses conditions. C'est moi qui décide, si tu fais ça, tu me donnes. En hébreu, ce n'est pas pareil. C'est vraiment la foi qui joue. Yahweh s'est convaincu que Dieu va répondre. Il n'a donc pas peur de prier de la sorte. On aurait pu croire que Dieu ne répondrait jamais à ce style de prière, peut-être en français. Si tu fais ça, si tu fais ça. Non, Dieu répond. Il aurait pu envoyer un prophète aussi à dire, répondre à la prière d'Yahweh, tiens, voilà ce que Dieu a dit. Ou l'envoyer faire un cours de théologie, peut-être, sur la prière, non. Dieu répond. Dieu accorda ce qu'il lui avait demandé. Mon fils, en tant que père, je t'accorde ce que tu as demandé. Quelle belle finale. Et dans sa grâce et sa bonté, Dieu répond de façon favorable à Yahweh. Il y répond car l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il y a quand même les trois petits points, la petite pause là, qui sépare la demande de l'accomplissement. Trois petits points qui peuvent parfois en dire long, qui nous laissent un peu dans le vague, mais combien important quant à la maîtrise de Dieu du temps et des circonstances. Dieu a répondu, c'est sûr, mais trois petits points. Quand ? Comment ? Qu'importe. Qu'importe l'important, c'est qu'il répond. Psaume 34, 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Psaume 34, 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Je crois qu'on oublie ça. On oublie ça. Que l'Éternel délivre toujours. En conclusion, Yahweh ne s'est pas laissé freiner dans sa vie avec le Seigneur à cause de quelque chose qui lui est arrivé des années auparavant et dès sa naissance. Il a refusé la fatalité de sa naissance. Il a refusé de traîner cela comme un boulet. Il a prié avec foi, en faisant totalement confiance au Seigneur pour ses besoins présents et futurs. Alors, Dieu accorda ce qu'il avait demandé, et peut-être lui a-t-il changé son nom, car on n'a plus jamais entendu parler de Yahweh's souffrance. Amen. Seigneur, encore une fois, nous voulons nous tourner vers toi. Je ne sais parfois pas où situe ma prière, parfois celle de l'enfant, celle de l'adulte. Mais parfois, je voudrais être tellement comme un enfant, dans tes bras. Parce qu'avec toi, tout est possible. Mais il faut le demander, il faut y croire. Y croire jusqu'au bout. Parce que même si tu as mis trois petits points d'attente, nous savons que tu réponds, toujours. Mais quand on revient, toute la gloire. Amen.